écoutez Europe 1, il est 19h.
Il y a des mesures qui sont prises qu'on n'a jamais vues. Vraisemblablement, ça s'apparente beaucoup plus à 1929 que ce qu'on a pu vivre en 2008 ou dans les autres crises précédentes.
L'inquiétude pour les petites et moyennes entreprises. La France va subir cette année la plus forte récession depuis la Seconde Guerre mondiale, estime Bruno Le Maire à la veille d'une réunion européenne cruciale.
Les hôpitaux français toujours en première ligne, même les services qui ne sont pas habituellement dédiés à la réanimation sont mobilisés. Témoignage du quotidien à l'hôpital à suivre.
Dans ce journal aussi, comment gérer l'affluence dans les bureaux de poste, longue file d'attente au moment où sont versées les prestations sociales.
Nous irons aux États-Unis qui préparent une semaine terrible. New York prolonge le confinement pendant qu'une autre Amérique vielle normalement.
Et puis quand les investisseurs chinois aident les médecins français, c'est ce qui se passe dans le Nord où un homme d'affaires va offrir des masques et du matériel de protection aux soignants.
Anissa, on lève la tête et on regarde la couleur du ciel.
Eh bien, demain, il sera majoritairement bleu, ce ciel. Le temps redevient sec. Nous aurons beaucoup moins de pluie. Quelques régions seront sous les nuages. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Sébastien Krebs.
La pire récession depuis 1945. Voilà donc ce que prédit le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui estime que le PIB français cette année va reculer au-delà des 2%, autour de 3%, dit l'INSEE. Et plus largement, c'est la situation des PME qui préoccupe. Comment tenir, comment avoir la trésorerie si le confinement dure encore des semaines? Inquiétude partagée par Jean-Eudes Duménil. Il est le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises.
J'ai l'impression qu'on en a. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que ça va bien au-delà de ce qu'on a pu vivre en 2008. On voit également que l'État considère que cette crise est d'une ampleur inégalée. Il y a des mesures qui sont prises qu'on n'a jamais vues. Et véritablement, on a l'impression aujourd'hui qu'on n'avait jamais vu ça. Moi, j'étais pas là en 1929, mais en tout cas... Vraisemblablement, ça s'apparente beaucoup plus à 1929 que ce qu'on a pu vivre en 2008 ou dans les autres crises précédentes. Personne n'est épargné et la difficulté qui est la nôtre, c'est qu'on ne sait pas exactement quel sera le bout du tunnel, comment on va s'en sortir, quelles mesures pour un plan de relance, parce qu'on aura besoin de relancer l'économie derrière, et puis quelles conséquences, parce que tout ça, malheureusement, il va bien falloir le payer par la suite. Donc oui, on est très inquiet aujourd'hui, même si faut jamais perdre espoir, bien entendu.
Un propos recueilli par Carole Ferry pour Europe 1. Les défaillances d'entreprises pourraient augmenter de 15%, estime l'assureur Crédit Coface.
Et on va justement parler de la situation des entrepreneurs très critiques à partir de 19h30. Les indépendants aussi, les petites entreprises. Appelez-nous si c'est votre cas. Nos avocats DRH également répondent à toutes vos questions, entre autres au 39-21.
Et demain, une réunion cruciale est prévue entre les ministres des Finances de l'ensemble de la zone euro. L'Union européenne fait face à la plus grande mise à l'épreuve de son histoire, estime la chancelière allemande Angela Merkel. La réponse, dit-elle, ne peut être qu'une Europe plus forte et qui fonctionne bien.
Selon l'OMS, ça n'est pas la solution miracle. Mais le débat est lancé. Le port du masque doit-il devenir obligatoire ?
En tout cas, c'est le choix qui a été fait à Nice. Le maire Christian Estrosi, qui était avec nous tout à l'heure dans le journal de 18h, annonce qu'il va en distribuer à toute sa population des masques en tissu, lavables et réutilisables, et qu'il va rendre donc obligatoire pour toute sortie. Il en promet 200 000 d'ici 8 à 10 jours. Les maires de Cannes et de Mandelieu veulent suivre.
Et un témoignage ce soir, au cœur de la bataille menée par nos soignants dans les hôpitaux, tous les services sont mobilisés.
Oui, vous allez entendre Stéphane Daugé. En temps normal, il est chef de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré. Il s'occupe donc des enfants. Eh bien, il a transformé son service. Il a ouvert une unité de 18 lits, cette fois pour les adultes. Pour lui, c'est presque un autre métier. Depuis le 23 mars, le service tourne à plein. Écoutez son témoignage.
C'est une expérience extrêmement forte. Les débuts ont été sans doute un peu difficiles, surtout que les premiers malades ont été des femmes enceintes. Donc ça a été compliqué psychologiquement pour tout le monde. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. On va y arriver. Les gens s'entendent bien, qu'on prend nos marques. Nous avons eu 4 sorties vivantes du service. Il y en a 2 autres qui vont remonter sans doute aujourd'hui ou demain. Alors il faut faire attention, c'est des patients jeunes. Donc là, encore une fois, en termes de morbidité, c'est pas la même chose que ce que vivent nos collègues. On a d'autres patients plus âgés pour lesquels les choses se compliquent un petit peu, comme on le voit souvent au bout de 14 jours de réanimation, comme nous ont annoncé les collègues. Pour l'instant, on a été protégés des décès, ce qui, pour le moral des équipes médicales et paramédicales, est plutôt bien. L'avenir, c'est de tenir. C'est parti pour durer, avec des durées de ventilation longues. Donc c'est là aussi qu'il ne faut pas essouffler les équipes. Pour l'instant, chez nous, ça tient et on va essayer de tenir comme ça.
Stéphane Daugé à l'hôpital Robert Debril répondait à Ève Roger.
D'où l'importance de continuer à respecter le confinement absolument. Le patron des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, l'a dit ce matin, il juge déjà que son impact est absolument majeur.
Oui, un confinement qui est parfois difficile à appliquer. Il y a par exemple une certaine affluence dans les bureaux de poste depuis ce matin en cette période exceptionnelle. Le versement des minima sociaux, RSA, allocation logement ou allocation familiale a été avancé de 2 jours. Des milliers d'allocataires ont l'habitude de se rendre au guichet de la poste. Beaucoup de bureaux étant fermés, bien les files d'attente s'allongent. Yann Bergaoui, notamment dans le département de Seine-Saint-Denis où il a fallu gérer cette affluence.
Absolument, les bénéficiaires de ces minima sociaux peuvent se rendre dans les 39 bureaux ouverts du département. D'habitude, ils sont 93. Mécaniquement donc, ces milliers d'allocataires se concentrent sur les seuls guichets disponibles. Et à Saint-Denis, par exemple, cela donne une file d'environ 100 mètres, témoigne Majid Messaouden, élu de la ville en charge des services publics.
J'y ai pas cru en fait, parce que la queue a longé carrément le commissariat pour aller à l'angle opposé. Et du coup, les gens restent dehors longtemps. Alors que la consigne, c'est de sortir le moins longtemps possible. C'est un truc qui ne va pas.
À l'extérieur des bureaux, des barrières et des marquages au sol sont installés pour maintenir les règles de distanciation sociale. Des agents de sécurité filtrent l'entrée. Et à l'intérieur, un dispositif permet d'éviter les contacts directs entre agents et usagers. Mais ça ne suffit pas, expliqué Dit Albo, secrétaire fédéral de Sud PTT.
Des plexiglas, par exemple, ont été envoyés. On sait qu'ils ne sont pas installés forcément dans tous les bureaux. On a un gros problème d'équipement en termes de masques. On le fait dans des conditions qui ne sont absolument pas acceptables d'un point de vue de santé, d'un point de vue de sécurité et y compris d'un point de vue de service rendu à la population.
Si le confinement est maintenu, le syndicat alerte déjà pour le mois prochain. Selon lui, il faudra ouvrir davantage de bureaux et trouver un meilleur équilibre entre santé des agents et droits des usagers.
Allons maintenant, ouais, pardonnez-moi, à l'étranger, hein, on vous parlait de l'espoir en Espagne.
Oui, quatrième jour de baisse de la mortalité. Et en Italie, en revanche, eh bien, après un week-end d'accalmie, la courbe est repartie à la hausse. Plus de 600 décès en 24 heures. Le total dépasse désormais les 16 000 morts, le double de la France.
Et aux États-Unis, la progression, elle est aussi fulgurante. Hein.
Et les autorités préparent l'opinion à une semaine terrible, déjà comparée à Pearl Harbor ou au 11 septembre. Xavier Yvon, vous êtes à New York, épicentre de la crise. New York qui se calfeutre, mais ce n'est pas le cas partout. Tout le pays ne se sent pas autant concerné, visiblement.
Ah oui, ça c'est clair. Alors vous avez des endroits comme New York, où je me trouve, où il y a désormais tellement de morts qu'on ne va bientôt plus savoir qu'en faire. Les camions frigorifiques que l'on voit installés désormais à côté des hôpitaux pourraient ne plus suffire. Il va peut-être falloir enterrer temporairement les morts du coronavirus dans un parc de la ville, une sorte de fosse commune. Voilà ce qu'a expliqué aujourd'hui un élu local. On a vu, c'est vrai, ce week-end, des images très perturbantes de sacs mortuaires alignés dans des couloirs d'hôpitaux. Il y a une lueur d'espoir ici à New York, car le nombre de décès stagne depuis 2 jours, toujours autour de 600. Le gouverneur de New York vient de prolonger les mesures de confinement jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 29 avril précisément. Des mesures qui donc n'existent pas partout dans le pays. Oui, 9 États comme l'Iowa, l'Oklahoma ou l'Utah n'ont toujours pas demandé à leur population de rester chez elle. Donald Trump ne veut pas imposer un confinement national comme en France, donc chaque État fait comme il veut. Il y a des États, par exemple, où des mesures ont été prises, mais où on n'a pas interdit les rassemblements religieux. Donc les églises étaient pleines hier, dimanche, car dans ces États du Sud très croyants, les lieux de culte sont considérés comme essentiels, au même titre que les supermarchés. Des États que le gouverneur de New York a mis en garde. Attention, nous sommes votre futur.
Xavier Yvon en ligne de New York pour Europe 1. Je reviens en France avec ce nouveau bilan qui est annoncé à l'instant par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Plus de 7000 personnes désormais soignées en réanimation ce soir. 6494 décès recensés en tout à l'hôpital, plus 2417 en EHPAD.
Oui, ce qui fait un bilan qui frôle désormais les 9000 morts hein, dans les hôpitaux et les EHPAD. On va y revenir longuement, bien sûr. Sébastien, on reste d'ailleurs en France avec cette attaque au couteau hein, ce week-end à Romans-sur-Isère.
Un réfugié soudanais de 33 ans qui a tué deux personnes et en a blessé cinq. L'enquête se poursuit, sa garde à vue a été prolongée et il a finalement commencé à parler. Salomé Legrand, il reconnaît les faits, mais il affirme qu'il ne se souvient plus de rien.
Oui, il dit qu'il ne se sentait pas bien depuis plusieurs jours, ce qu'évoquaient déjà différents témoins et voisins qui le trouvaient aigri ces derniers temps à cause du confinement. Le jour de l'attaque, il dit s'être senti surveillé, épié. Des anxiolytiques ont été retrouvés chez lui, mais les enquêteurs n'ont pour l'instant pas trace d'antécédents psychiatriques. Ils sont en train de vérifier. Autre point, en cours de vérification, l'homme affirme s'être rendu à l'hôpital il y a quelques jours pour se faire dépister du Covid-19. Refus, il aurait été renvoyé chez lui avec des doliprane, affirme-t-il. Pour l'instant, peu d'éléments nourrissent la piste d'une radicalisation. Le suspect réfute toute adhésion à l'État islamique et décrit sa pratique religieuse comme ponctuelle. Seul un texte manuscrit où il est question de la France comme un pays de mécréants a retenu l'attention. L'analyse de son téléphone est toujours en cours. D'après nos informations, il a fait preuve d'un grand déchaînement de violence. 22 coups de couteau ont été relevés sur l'une des victimes. Le parquet antiterroriste souhaite qu'une expertise psychiatrique approfondie soit réalisée.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Et rendons-nous maintenant dans le Nord. On parlait des masques, on sait combien ces protections manquent parfois aux soignants. Eh bien dans le Nord, c'est un homme d'affaires chinois qui a pris tout simplement le relais.
Oui, ça se passe à Maubeuge, région où cet industriel a prévu d'investir prochainement. Il tisse donc des liens avec la région et il a décidé d'envoyer depuis la Chine du matériel aux infirmiers et aux médecins. On sait combien ces matériels peuvent manquer. Lionel Gougelot, ce sont des dizaines de milliers de masques et de blouses qui arrivent demain.
Oui, en fait, ce cadeau de matériel médical vient renforcer les liens de l'homme d'affaires chinois avec la région de Maubeuge, puisqu'il y prévoit à l'avenir un investissement de 150 millions d'euros dans un projet d'atelier textile. Un geste salué par le député Christophe Di Pompeo à l'origine des premiers contacts avec Jian Chen.
Monsieur Chen, une fois sorti d'affaires en Chine, une des premières choses qu'il a fait, c'est de nous appeler pour me dire, voilà, on a du matériel, est-ce que vous en avez besoin? Et oui, on en a besoin parce que nos professionnels de santé aujourd'hui comptent les masques un par un et c'est devenu une denrée rare. Donc voilà, c'est un vrai geste d'amitié, de solidarité. Et donc, on peut dire aujourd'hui que le geste qu'il fait vient conforter sa volonté de s'installer à Maubeuge pour développer son investissement.
100 000 masques médicaux, des surblouses, des lunettes et des visières de protection arrivés hier à Roissy et qui seront distribués à partir de demain aux professionnels de santé. Du matériel qui va soulager Michael Semaille, infirmier libéral.
Les masques qui nous ont été livrés par l'État sont des masques qui sont périmés. Moi, il s'est avéré à plusieurs reprises que mon élastique a cassé lors de mon utilisation du masque. Le fait de recevoir une dotation un peu plus importante va nous permettre de travailler psychologiquement plus en sécurité, de savoir que si jamais on casse un masque, cela va nous permettre de changer sans avoir à compter le nombre de masques qui nous reste pour finir la semaine.
Un renfort de matériel qui va permettre à tous les professionnels du secteur d'attendre plus sereinement les nouvelles dotations d'État.
Le récit de Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.
Et puis les belles initiatives, elles fleurissent chaque jour un peu plus sur Internet. Hein. Écoutez bien, ils sont 45 musiciens et chanteurs et ils ont joué ensemble, à distance, chacun chez soi.
Et ça donne la symphonie confinée. Gros succès sur les réseaux sociaux ce week-end. 1,5 million de clics. La chanson, c'est La Tendresse de Bourvil.
Bourvil.
Et cette initiative qui est signée Valentin Van Der Hagen. 45 tous à distance et en vidéoconférence.
Et je crois que cette symphonie, elle est dédiée à toutes les personnes touchées, évidemment, de près ou de loin par le Covid, cela bien entendu. Mais c'est au-delà un message très universel. Hein. Merci beaucoup, Sébastien Krebs. Retour de l'info avec vous, 19h30. Un nouveau rappel des titres. Anissa, le temps redevient sec hein, demain.
Oui, c'est vrai qu'on a eu pas mal de pluie aujourd'hui. Une perturbation est arrivée par l'ouest. Eh bien, ça se calme demain avec quand même sur la Bretagne toujours une couverture nuageuse avec quelques petites averses possibles demain dans la journée. Sur la façade est de l'Alsace à la Méditerranée, il fait encore très beau comme aujourd'hui et le soleil va dominer largement. Sur les Pyrénées, quelques gouttes sont attendues, mais sur les reliefs. Donc pas de panique, hein, c'est en altitude que ça va se passer. Partout ailleurs, eh bien, le temps reste sec avec pas mal de nuages. C'est encore une journée en demi-teinte demain. Des nuages et des éclaircies. Attention au vent d'automne qui se réveille dans la matinée et qui va souffler jusqu'à 70 km/h. Les températures minimales, elles sont plus fraîches.
fraîche à l'est avec le ciel dégagé, forcément 2 degrés à Avignon, 4 à Grenoble, Metz et Nancy, 6 pour Marseille et Saint-Etienne, 8 à Nantes, 10 à Paris et 11 à Nice. Et puis au meilleur de la journée, ça grimpe encore demain, il va faire très doux, 14 à 17 en bord de mer, on aura 15 degrés à Cherbourg par exemple, 21 à 23 en moyenne sur l'ensemble de la France, 21 à Rennes et 21 à Biarritz, 24 en Alsace à Colmar et 25 la maximale pour Auxerre.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy.
Oui, avec mon invité dans un instant, Pascal Bruckner, essayiste, écrivain, philosophe. Quel regard porte-t-il sur cette crise sanitaire? Il va nous livrer évidemment son analyse. Cela fait plus de 3 semaines maintenant. Bonsoir Pascal Bruckner.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous répondre ce soir en direct sur Europe 1. Le monde d'après, les Français, ceux de la France d'en haut comme ceux de la France d'en bas, espèrent des lendemains différents après la sortie de crise. À quoi, selon vous, Pascal Bruckner, peut ressembler demain?
Demain, c'est d'abord la suppression d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous ne maîtrisons rien de la situation actuelle et donc nous espérons au moins que demain, nous pourrons sortir dans la rue, voir nos amis, aller au café, au restaurant, voyager, sans être en permanence sous la menace d'une nouvelle contagion. Donc déjà, demain, c'est la négation de tout ce que nous vivons en ce moment. Et très, très concrètement, c'est ça, c'est ça qui est le plus souhaitable. Maintenant, on ne maîtrise rien de ce qui nous arrive, puisque là, nous sommes dans une sorte de panique quotidienne et donc nous aimons bien imaginer un futur où nous serions les maîtres de notre destin, ce qui est précisément l'inverse de ce que nous vivons aujourd'hui.
Il y en a beaucoup qui commencent à dire la mondialisation est responsable de cette pandémie, affirment que le seul moyen d'éviter que ce scénario se reproduise, c'est de démondialiser le monde, l'économie. Quel est votre sentiment là-dessus, votre analyse?
Vous savez, la grande peste du Moyen-Âge, dans les années 1300 ou 1400, est arrivée sans
mondialisation.
En tout cas, c'était pas la même. Il y avait déjà des routes de la soie. Effectivement, c'est les marchands, les bateaux qui l'ont apporté. Mais c'était pas du tout la même mondialisation. Donc, à moins d'imaginer un globe où les hommes vivraient totalement isolés, je crois que c'est un rêve. Ce que je remarque, c'est que dans cette période tout à fait particulière, chacun suit un peu ses marottes. Donc les anticapitalistes vous expliquent que c'est la fin du système, les catastrophistes qui sont un peu vexés d'avoir été doublés sur leur gauche ou sur leur droite par une véritable catastrophe vous disent que ça confirme tout leur scénario et que, comme disait l'autre, c'est un ultimatum que la nature nous envoie. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que la mondialisation ne sera plus la même. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce à quoi il faudra réfléchir, c'est à couper les liens de dépendance aussi contraignants qui nous lient, par exemple, à la Chine pour l'achat de médicaments, de pénicilline. Et sur ce plan-là, nous nous sommes volontairement dépossédés de nos capacités. Et là, je crois qu'il va falloir réfléchir très vite à retrouver un minimum de souveraineté. Simplement, la question, est-ce que c'est une souveraineté nationale ou est-ce que c'est une souveraineté européenne?
Et d'ailleurs, l'Europe, on a vu les bisbilles la semaine dernière, on a vu la fracture nord-sud. Comment expliquer qu'on en est là alors qu'on est en face d'une crise mondiale? On n'arrive pas à parler d'une seule et même voix. Comment l'expliquer?
Parce que toute crise, c'est comme toute dispute dans un couple, toute crise révèle des failles déjà existantes. Et donc, les adversaires de l'Europe souligne à juste titre toutes les failles, tous les manquements de solidarité des pays européens les uns envers les autres. Mais je ne suis pas sûr que pour lutter contre une pandémie aussi globale, le repli sur le national suffit. C'est-à-dire que là, au contraire, il me semble que là, après un moment de cafouillage, la solidarité européenne va être plus nécessaire que jamais. Et puis, je dirais qu'il y a deux grands acteurs face à face aujourd'hui. Il y a la Chine et les États-Unis. Et pour des raisons particulières, ni l'un ni l'autre ne sont peut-être en mesure de prendre le leadership mondial. Et cela redonne éventuellement un certain
crédit,
une certaine dimension à l'Europe. Je ne suis pas certain que l'Europe soit finie, comme on le dit.
Alors peut-être Pascal Bruckner, mais dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas qu'en Europe, individuellement, en tout cas chaque nation, prenne, des dispositions, ait une communication, soit dans une gouvernance qui soit à la hauteur de cette responsabilité, de cette crise à laquelle on doit faire face. Et est-ce qu'aujourd'hui, précisément, parce qu'on va parler clairement de la France, est-ce que le gouvernement est à la hauteur de la situation en termes de communication, en termes de gestion des priorités, en termes de propos et de clarté des propos?
Ah ben, votre question, la réponse est contenue dans votre question. C'est très difficile de jeter la pierre au gouvernement parce qu'on ne sait pas ce qu'on ferait à sa place. Il est évident que depuis 15 jours, la communication a été assez désastreuse, que ce soit sur les masques ou sur les tests. Donc l'État essaye de se rattraper in extremis. Et donc s'appuie sur l'hôpital, mais c'est toute une politique de santé qui doit être revue et qui a été appliquée depuis 10 ou 15 ans, qui était donc une politique de restriction du budget de la santé, appauvrissement des hôpitaux, et toutes les manifestations d'infirmières et de médecins auxquelles on a assisté depuis 2 ans l'ont exprimé assez clairement. Donc là, il va falloir évidemment une révision déchirante et il va falloir qu'on comprenne où on met les priorités. Mais si la France rapatrie, par exemple, la production de médicaments fondamentaux, ça va renchérir le coût des traitements. Et donc, il faut savoir si nous, Français, nous sommes prêts à payer un peu plus cher pour les soins dont nous bénéficions. Mais tout ça va être un choix politique post-Covid.
Post-Covid. Pascal Bruckner, on a vu les Parisiens ressortir massivement ce week-end à la faveur du beau temps. Le mot déconfinement a-t-il été prononcé trop tôt ou l'individu, parce que vous travaillez sur l'individu est-il incapable de se discipliner?
L'individu est capable de se discipliner, mais est-ce qu'il résiste à un rayon de soleil? C'est ça le problème. Oui, les gens sont un peu sortis, mais beaucoup moins à Paris qu'ils ne sont sortis à New York, où Central Park était plein, alors même que la situation sanitaire des États-Unis est infiniment plus grave que la nôtre.
Alors le français est incapable de se discipliner, alors c'est ce qu'on doit comprendre en creux?
Oui, c'est-à-dire que si les gens portaient des masques, le risque de contamination par les sorties serait bien moindre. Je pense qu'on implique aux individus un manque de discipline qui vient plutôt d'une absence une absence d'instruction de la part des autorités. Tout le monde devrait pouvoir porter un masque et changer de masque tous les jours. On ne peut pas imputer à la population un manquement qui vient quand même globalement des hésitations de l'exécutif qui là-dessus a beaucoup patiné.
Je reviens, pardonnez-moi, Pascal Bruckner, à une question peut-être plus générale, mais fondamentalement, qu'est-ce que le philosophe, l'essayiste que vous êtes, peut répondre à cette question? Que, individuellement ou sociétalement parlant, peut nous apporter de positif cette période de confinement lorsque nous sortirons?
Je pense d'abord que cette période va nous rendre notre vie quotidienne, que nous trouvions mauvaise, ingrate, désagréable, elle va nous rendre la vie quotidienne extraordinaire. Tout ce qui était de l'ordre de la norme, de l'ordinaire, va devenir tout d'un coup extraordinaire, puisqu'on va pouvoir...
Mais ça, ce sera ponctuel, non?
Ce sera ponctuel, et ensuite on tirera les enseignements de cette crise, mais qui nous dépasse tellement que nous avons même du mal à l'envisager, à la considérer. Il y aura probablement des changements fondamentaux au niveau de l'habitat, c'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que les grandes villes, les mégalopoles sont des foyers de propagation du virus. Et donc peut-être que le post-Covid, ce sera une réhabilitation à disperser, où les gens iront à la campagne, au bord de la mer ou dans des maisons plus espacées. Il est probable que le mythe de la mégalopole va en prendre un coup, parce que la mégalopole, ce sont donc des flux incessants de gens qui se croisent, qui sont tassés dans les transports en commun. Bon, c'est le cas de Paris, qui est une ville absolument surpeuplée en temps habituel. Et je me demande si ça va pas être un des effets positifs ou non du Covid. C'est-à-dire que les gens vont se dire, pourquoi vivre encore dans des grandes villes où je paye plus cher qu'ailleurs et où je risque de tomber malade au contact d'inconnus.
Merci beaucoup Pascal Bruckner, merci de nous avoir livré ce soir votre pensée, votre analyse dans cette crise du Covid. Merci beaucoup Pascal Bruckner, écrivain et philosophe, d'avoir été avec nous ce soir.
Europe 1.
Dans un instant, dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
C'est demain en France, demain dans le monde, vous avez l'habitude. Et puis, question très pratique, n'hésitez pas à nous les poser. On vous y répond si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, patron de TPE ou PME, avocat, DRH, ils sont là pour répondre à ces questions.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, et on prend un temps d'avance, on s'intéresse à ce qui va se passer demain comme tous les soirs, demain en France d'abord pour commencer.
Oui, demain en France avec Jean-Pierre Montanet. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Nathalie.
Avec le confinement, les audiences télé et les abonnements aux plateformes de streaming explosent littéralement. Demain, l'arrivée de Disney+, ça y est, sur le territoire, pourrait bien carrément bouleverser la donne, hein.
Oui, la guerre, Nathalie, est déclarée. Le pionnier, le modèle Netflix, avec presque 7 millions d'abonnés en France, peut trembler. Débarque donc le mastodonte Disney, plus grand producteur au monde de divertissement. Un ogre aussi, insatiable, qui a racheté coup sur coup Pixar, Marvel, Lucasfilm, Fox, histoire de se constituer un catalogue hors norme avec une offre de 500 films, 300 séries. Cela va des mythiques dessins animés comme Bambi, en passant par les films d'animation, Toy Story, toute la série Star Wars, les super-héros comme Avengers et le catalogue patrimonial de la Century Fox avec ses classiques depuis 1935. Tout ça pour 6,99€ par mois via l'application sur le site. Faute d'accord avec les opérateurs, Disney Plus n'est pas disponible sur les box, mais sera distribué par Canal Plus. Maxime Saada, le patron du directoire, a indiqué ce matin dans Culture Média qu'une vaste majorité des abonnés Canal pourraient en bénéficier gratuitement.
Alors, quelles sont les prévisions d'abonnement après des lancements qui ont dépassé toutes les prévisions aux États-Unis et dans quelques pays déjà d'Europe, hein ?
Alors, sûr de son coup, Maxime Saada ce matin a prédit sur Europe toujours un succès phénoménal. Souvenez-vous de ce tsunami sur ces terres américaines, 10 millions d'abonnés en 24 heures, ça fait 7 000 par minute, près de 30 millions en 3 mois. Fin mars aussi, carton plein dans les 7 pays d'Europe, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Italie, Espagne, Autriche et Suisse, tous confinés, il faut dire. Résultat, 5 millions de téléchargements rien que pour le premier jour. Aucune raison donc que la France, elle, boude Disney. D'ailleurs, redoutant un raz-de-marée, les pouvoirs publics avaient exigé le report de son lancement de 15 jours afin de ménager notre réseau Internet.
Bah oui, tu parles. Sauf que, bon, bah là, ça y est, ça y est, on y est, c'est lancé, c'est demain.
Oui. Et alors, est-ce que pour autant, ça sera mieux demain? Les experts vous diront que ce n'est pas dans un tel délai que les opérateurs ont pu gonfler de façon spectaculaire les capacités. Au mieux, ont-ils pu procéder à quelques ajustements? Les opérateurs se sont préparés bien en amont à l'arrivée de la plateforme, il y a déjà 6 mois, afin d'éviter les bugs et la saturation du réseau. À l'époque aussi, personne n'imaginait un confinement aujourd'hui et une telle augmentation du trafic Internet. Disney, comme Netflix, a promis de dégrader de 25% la qualité de ses vidéo pour alléger la pression sur la bande passante. Mais demain, le géant américain n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, un comble. Si jamais oui, le nombre de connexions est très largement au-dessus du pic qui avait été imaginé.
Et, ouais. Et Jean-Pierre, 10 secondes, vous avez vu le catalogue, il est dingue ou pas ?
Ah bah, il est dingue, je vous ai dit, vous avez tous les films, les Aristochats, la série.
Les Aristochats, c'est pas d'hier.
Non, c'est pas d'hier, mais pour les enfants, parce que c'est très familial. Non, mais c'est très familial aussi. C'est une plateforme qui est très sûre, qui rassure les parents. Il y a tous les mythiques dessins animés, et puis il y a tous les films de Pixar, il y a tous les films de ces super-héros d'Avengers, et puis toute la Century Fox, etc. Ça fait beaucoup de films, sans compter les séries.
Bon, d'accord. Alors, ok, vous validez. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À demain. Merci à vous. Demain dans le monde, c'est Didier François. Bonsoir, Didier.
Oui, bonsoir Nathalie.
Nous faisons le point sur la pandémie, évidemment, avec en ce début de semaine un léger, je dis bien léger espoir en Europe, je pèse mes mots, et plus particulièrement en Europe méridionale, Italie, Espagne, France, les pays les plus touchés par le virus, mais où la maladie peut-être commence à ralentir.
Alors, en tout cas, c'est ce que semblent indiquer les chiffres, que ce soit ceux de la mortalité ou ceux des contaminations. L'Italie montre une légère amélioration depuis 3 jours maintenant, un nombre de morts à la baisse, autour des 500 décès quotidiens, ce qui reste élevé. Mais ce sont les bilans les plus bas depuis 2 semaines dans un pays qui a payé un lourd tribut avec 16 000 morts depuis le début de la crise. Et pour le patron de l'Institut supérieur de la santé, la courbe a bel et bien commencé sa descente. Même constat en Espagne, 4e jour consécutif de baisse des décès, alors avec encore plus de 600 morts par jour, mais un repli qui se double d'un ralentissement des contagions de l'ordre du tiers. On aurait donc atteint un palier dans l'épidémie, d'ailleurs comme en France, avec 350 décès en 24 heures et une diminution des admissions en réanimation. Tout ça est plutôt encourageant, montre que le confinement, eh bien ça fonctionne. D'ailleurs, dans les trois pays, le message des autorités est le même. Attention, le danger n'a pas disparu et ce n'est pas le moment de baisser la garde.
Eh oui, alors la pandémie, elle est effectivement très loin d'être terminée, avec le gros de la vague qui déferle désormais sur le Royaume-Uni et sur les États-Unis où l'on tremble, hein.
Oui, au Royaume-Uni qui a réagi avec un peu de retard, le Premier ministre a été hospitalisé et la reine a dû monter au créneau pour exhorter les Britanniques à respecter le confinement. Quant aux États-Unis, les experts s'attendent au pire. Le patron des services fédéraux de santé a utilisé deux traumatismes nationaux pour décrire ce qui pourrait se passer cette semaine, les attentats du 11 septembre et l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. En précisant que ce serait d'ailleurs pire encore puisque les projections médicales envisagent plus de 100 000 morts à l'échelle du pays. New York est déjà totalement submergé, avec d'ailleurs cette petite anecdote, mais qui est assez significative de l'ampleur de l'épidémie. Aux zoos du Bronx, ce sont jusqu'aux tigres et aux lions qui ont été contaminés par leurs soigneurs.
Merci beaucoup Didier François. On reste évidemment très vigilants et on se reparle demain.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
La grosse galère pour les indépendants, les petits entrepreneurs, toutes vos questions, c'est dans un instant avec nos experts, hashtag Radio Ouverte, pour vous accompagner.
Il est 19h30, votre grand journal du soir.
Et Sébastien Krebs, les titres.
Plus de 800 morts supplémentaires enregistrés en 24 heures. Le bilan en France dépasse désormais les 8900 morts du coronavirus. Plus de 7000 patients sont en réanimation. 2400 morts rien que dans les EHPAD. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce ce soir le lancement d'une vaste opération de dépistage dans tous les établissements pour personnes âgées. Le sang des personnes guéries peut-il soigner les malades? Un essai clinique débute demain. Il s'agit de tester le traitement par transfusion de plasma sanguin. C'est ce qui contient les anticorps. Des masques bientôt distribués à tous les habitants de la ville de Nice. La promesse ce soir sur Europe 1 du maire Christian Estrosi. Ils seront livrés à domicile la semaine prochaine. Il en promet 350 à 400 000. Une première en France, le port de ces masques en tissu sera rendu obligatoire ensuite sur la commune. À retenir aussi en Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson, toujours hospitalisé en observation, mais aux commandes. Et précise son entourage. Au Royaume-Uni, le bilan a dépassé les 5000 morts. En Italie, la mortalité repart à la hausse. L'Autriche, en revanche, annonce le début du déconfinement dès mardi prochain. Et puis la bataille des droits télé dans le foot. Le championnat à l'arrêt, plus de matchs à diffuser. Canal+ et Bein Sport ne payent plus les droits à la Ligue. Des négociations vont s'engager. C'est le patron qatari du PSG, Nasser El Khelaifi, qui va tenter la médiation.
Merci Sébastien Krebs, on vous retrouve demain 18h, sans faute. Toujours du beau temps dans l'Est, Anissa, demain?
Oui, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la seule région où il a fait beau, de l'Alsace jusqu'à la Méditerranée. C'était un temps printanier aujourd'hui, avec aucun nuage dans le ciel. Et bien, rebelote pour demain, exactement le même scénario. Alors un peu plus à l'ouest, nous n'aurons plus de pluie, le temps redevient sec, mais nous aurons encore quelques nuages, notamment sur la Bretagne et sur les Pyrénées, des nuages assez épais qui pourront vous apporter quelques gouttes dans la journée. Les températures, elles sont toujours très douces, 2 à 9 degrés à l'est demain matin, 6 à 11 sur le reste du pays, et dans l'après-midi ça grimpe, hein. On gagne encore des degrés avec 18 degrés pour Montpellier demain après-midi, 20 à Marseille et Bordeaux, 22 pour Paris et 25 à Auxerre pour la maximale. Et puis à partir de mercredi, c'est le retour du grand soleil sans aucun nuage dans le ciel, il va faire vraiment très beau pour le reste de la semaine.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, Nathalie Lévy. Ce soir, on s'intéresse aux entrepreneurs, aux artisans, aux auto-entrepreneurs. Vous pouvez poser toutes vos questions à nos experts. Ce soir, ils sont là avec vous jusqu'à 20h. Roland Pérez, avocat d'Europe 1, et Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH.
Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Maître Pérez, bonsoir Benoît Serre. Bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors vous allez rassurer, j'espère, ce soir pas mal de nos auditeurs qui ont des questions sur leur situation professionnelle à nous poser. On commence avec Philippe de Valence. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Bienvenue bonsoir, sur Nathalie. Europe 1. Alors vous avez une petite entreprise de transport de denrées alimentaires, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Super. Alors expliquez-nous.
En tout ce qui est transport sous température dirigée.
D'accord. Alors votre situation aujourd'hui?
La situation aujourd'hui, elle est très compliquée puisque on perd à peu près 30% de nos chiffres d'affaires par jour et que nos coûts de revient augmentent parce qu'on multiplie nos kilomètres à vide pour assurer le ravitaillement des plateformes et de tout ce qui est magasin.
D'accord. Alors, comment faire pour, en gros, limiter le crash, hein, c'est ça, moins 30% de chiffre d'affaires par jour, on roule à vide, des kilomètres à vide, Roland Pérez, Benoît Serre, qui veut démarrer?
Peut-être démarrer.
On connaît
évidemment toutes les mesures immédiates de soutien aux entreprises qui ont été mises en place et j'imagine que Philippe les connaît aussi, tout ce qui est délai de paiement d'échéances sociales, les remises d'impôts, les reports des paiements de loyers et des factures. On sait qu'il y a des fonds de solidarité pour les très petites entreprises qui peuvent aller jusqu'à 3 500 euros, entre 1 500 euros et 2 000 euros de plus, ça fait à peu près 3 500 euros. Peut-être que ça va être renouvelé. Et puis il y a ces fameux prêts garantis par l'État, mais tout cela, évidemment, qui dit prêt dit remboursement, ne dit pas le manque à gagner que résulte aujourd'hui ce manque d'activité. Alors, moi, je vous conseillerais quand même, cher Philippe, de vous adresser dans chaque région, vous avez une chambre du commerce et la chambre de commerce et d'industrie de votre région a mis en place normalement des soutiens à des trésoreries, des filières qui sont particulièrement exposées, comme la filière des transports. Et il peut y avoir des prises en charge de frais fixes qui peut être fait par la région, en cela aidé précisément par la chambre de commerce qui va vous expliquer un petit peu comment intervenir auprès de la région pour pouvoir obtenir ces aides. Et puis il y a aussi l'aide des administrateurs et des mandataires judiciaires aujourd'hui qui, pour faire face aux difficultés, vont aider les entreprises pour vous aider à trouver des solutions pour ce manque à gagner, puisque au-delà de toutes les aides et au-delà des prêts que vous allez pouvoir obtenir, il va y avoir un manque à gagner, une perte d'exploitation, et ces administrateurs vont mettre leurs compétences à votre service pour vous aider à restructurer votre entreprise pour essayer de sortir le mieux possible de la crise engendrée par cette période, cette crise sanitaire.
Alors voilà, il y a des possibilités, Philippe, il faut absolument se renseigner. Il y a des possibilités, il y a aussi des délais. On va peut-être y venir avec vous, Benoît Serre, dans un instant. Merci, Philippe, de votre appel. On est en ligne cette fois avec Laure. Bonsoir, Laure, vous nous appelez des Yvelines.
Oui,
Benoît Serre va vous répondre dans un instant. Vous, pour exposer un petit peu votre situation, vous êtes, vous, co-créatrice d'une petite entreprise de capsules de thé, depuis assez récemment, depuis 2 ans. Et donc, votre chiffre d'affaires, je crois, a été divisé par 2 en 1 an, c'est ça?
C'est ça. Alors, sur ce mois-ci.
Sur ce mois-ci, oui.
Voilà. Et donc, à quelques centaines d'euros près, nous, on n'entre pas du coup dans les cases définies par le gouvernement, des 50%. Et c'est vraiment, ça se joue à 50 ou 100 euros. Et donc, du coup, on se demandait si, pour les petites structures comme la nôtre, pour qui cette aide est vraiment très importante, il va y avoir une indemnisation au prorata ou une aide au prorata, ou si l'État se limite complètement à aller aux 50%.
Et oui, Benoît Serre, j'entends beaucoup ce discours, effectivement, pour les indépendants aussi, photographes, kinés, etc. À quelque chose près, ça passe pas, hein.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est le phénomène des effets de seuil. Donc bonsoir, Laure. Le sujet, c'est que l'État a fixé effectivement des règles parce qu'il fallait en fixer à 50%. Donc c'est effectivement le fait que vous soyez pas à 50% peut créer des difficultés à accéder à certain nombre de choses. Ça vous empêche pas d'accéder aux prêts garantis par l'État. Ça vous empêche pas de demander et d'obtenir probablement les reports de charges diverses et variées. Donc ça, c'est un premier point qui était évoqué par Roland Pérez tout à l'heure. Je crois que de plus en plus, comme l'État a fixé des règles nationales, les régions sont en train de se saisir d'un certain nombre de fonds d'aide régionalisés et qui créent des conditions d'accès qui sont parfois différentes ou parfois complémentaires à celles que l'État a mis en place. Donc la région dans laquelle vous êtes a sans doute mis en place ce genre de choses. Pareil pour les chambres de commerce, pareil pour les chambres d'artisans. Ça, c'est un premier point. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que vous ne soyez pas absolument dans la norme qui a été fixée par le gouvernement signifie pas que il ne vous reste plus que vos yeux pour pleurer, en quelque sorte. Ouais. Donc ça, c'est un point important à avoir à l'esprit.
Oui,
ensuite, sur la sur votre baisse de chiffre d'affaires, ce que si j'ai bien compris, en fait votre chiffre d'affaires est inférieur à 50% par rapport au mois d'avril 2019. C'est ça? Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, vous n'êtes pas dans le système. Je voulais savoir si vous avez des salariés ou vous êtes toute seule pour faire cette activité.
Alors, nous sommes deux co-créatrices qui sommes TNS et nous avons un salarié.
Et le salarié en question, vous avez pris des décisions par rapport aux solutions de chômage partiel ou autre chose, ou pas du tout?
Bah écoutez, jusqu'à présent, on avait décidé de maintenir ce salarié en activité parce qu'il s'agit d'une fonction marketing et on a pensé que communiquer avec les personnes qui sont chez elles et pas dans les sociétés ou les hôtels avec lesquels on travaille d'habitude, et bien c'était très important et que dans ce moment de crise, il fallait absolument que l'équipe marketing et l'équipe de direction soutiennent le commerce pour continuer à se faire connaître et à essayer de maintenir un minimum d'activité.
Non, je vous posais la question, effectivement. Ouais. Voilà, donc le sujet, c'est que le fait que vous ne soyez pas à 50% ne vous empêche pas d'accéder à des facilités de financement, de trésorerie ou de report de charges. Mais je vous invite effectivement à contacter votre région, votre chambre des commerces ou votre organisation professionnelle pour voir dans quelle mesure eux-mêmes compensent par des systèmes complémentaires.
Voilà, merci beaucoup pour votre appel et merci à vous Benoît Serre. Roland Pérez, vous êtes avec nous, on va se parler dans un instant. Marie nous appelle de Vendée, on vous la passe évidemment, sa question et vos réponses très claires, on le voit, très pratique. À tout de suite.
Et la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et ce soir, nous répondons à toutes vos questions. On s'intéresse aux entrepreneurs, aux artisans, aux auto-entrepreneurs qui subissent cette crise sanitaire. Vous pouvez interroger nos experts Roland Pérez, avocat d'Europe 1, et Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous êtes en Vendée, vous nous appelez ce soir parce que vous êtes, vous, kiné, en libéral, donc. Et vous êtes évidemment en questionnement par rapport à cette aide à hauteur de 1 500 euros pour ceux dont le chiffre d'affaires de mars 2020 est inférieur à hauteur de 50%. On est un peu dans la même thématique. Maître Pérez, c'est là qu'on se tourne vers vous. Vous êtes là?
Oui, absolument.
Ah, alors, Maître Roland Pérez.
Je souhaitais savoir...
Oui,
je crois que Marie avait une question précise d'ailleurs sur l'allocation de cette somme.
Nos cabinets sont fermés, nous n'avons plus le droit d'aller en EHPAD, nous ne travaillons plus du tout. Mais ce n'est pas une fermeture administrative, donc en fait on rentre dans le cas des 50%. Et je voulais savoir d'une façon très technique, si on devait prendre en compte le nombre d'actes effectués en mars 2019 par rapport à mars 2020, ou alors les encaissements de mars 2019 par rapport à mars 2020.
Non, alors généralement c'est le chiffre d'affaires, donc c'est le chiffre d'affaires qui est facturé. Après l'encaissement c'est autre chose, à moins que vous ayez passé en pertes et profits d'un point de vue comptable, les sommes qui n'auraient pas été encaissées, mais si elles ne sont pas passées en pertes et profits, vous allez prendre donc en compte le chiffre d'affaires que vous avez facturé, donc les prestations que vous avez facturées pour le mois de mars 2019 comparées à celles du mois de mars 2020 pour pouvoir calculer ce chiffre d'affaires inférieur à hauteur de 50%. Voilà, ça c'est pour répondre à votre question, pour pouvoir bénéficier de ces 1500 euros. Je précise que ces 1500 euros, encore une fois, vont peut-être être renouvelés. C'est ce qu'a annoncé le ministre préposé aux aides, a indiqué qu'il serait tout à fait possible que ces aides soient renouvelées chaque mois en fonction de la période de confinement. Et je précise également que vous pouvez peut-être aussi bénéficier de l'aide de 2000 euros. Il faut remplir les conditions suivantes, avoir au moins un salarié, être dans l'impossibilité de payer vos créances dans un délai de 30 jours et que votre banque vous ait précisément refusé un prêt de trésorerie. Dans ce cas-là, vous pouvez voir compléter cette aide de 1500 euros par cette aide de 2000 euros qui sera probablement versée par votre région.
Vous y voyez plus clair, Marie ?
Oui, mais malheureusement, c'est comme pour la personne d'avant, en fait, de prendre 50%, ça ne reflète pas ce qu'on a fait en mars. Et donc, moi, par exemple, je ne vais pas rentrer dans le cadre, ça, c'est sûr.
Oui, c'est ça. On est souvent à la limite, Maître Pérez. On est très souvent à la limite. J'ai un cas semblable encore qui me questionnait sur Twitter. Est-ce qu'il va y avoir une indulgence ?
Alors, on peut toujours exposer. Vous allez sur l'aide, ce fonds de solidarité s'obtient en allant sur son, sur sa situation sur impots.gouv.fr, sur son compte fiscal sur impots.gouv.fr. Vous pouvez essayer quand même d'entrer les indications, essayer d'avoir peut-être un conseiller, on va dire du fisc sur cette question-là pour voir, parce que ce fonds de solidarité est donnée par le gouvernement et par le ministre de la fiscalité. Donc vous pourriez peut-être essayer de rentrer dans les conditions, même si effectivement on est assez clair, on était passé de 70% à 50%. Et la difficulté, c'est que l'autre aide, de 2000 euros n'est donnée qu'à ceux qui bénéficient également de l'aide de 1500 euros. L'un va avec l'autre. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Et comme me disait Benoît Serre, la seule possibilité, c'est peut-être d'obtenir à ce moment-là un prêt de trésorerie qui est facilité aujourd'hui dans l'attente et pour vous permettre de faire face à vos difficultés.
Eh oui. Voilà Marie, en tout cas on a essayé de vous éclairer ce soir. On va prendre Jean avant la pause avec vous, Benoît Serre. Jean nous appelle de La Rochelle. Jean, vous êtes artisan et alors vous êtes personne à risque, donc en arrêt depuis le début du confinement. Quelle est votre question ?
Eh bien, voilà, donc vous avez résumé la première partie. Donc ensuite, je voulais savoir, moi, si je peux prétendre au PGE et sur quelle base de revenus, sachant que, de toute façon, mon chiffre d'affaires de mars 2020 n'est pas inférieur de 50% par rapport à celui de 2019.
Alors, bonjour Jean. D'ailleurs, vous êtes de La Rochelle et j'ai une maison là-bas, donc j'adore cette ville. je suis content de parler à un Rochelet. Si j'ai bien compris, vous êtes artisan et vous ne pouvez plus exercer d'activité du tout suite à la décision de confinement. Là, vous avez une situation un peu particulière, c'est-à-dire que, évidemment, vous pouvez suspendre le paiement de vos cotisations sociales à impôts directs, etc. La deuxième chose, c'est que vous pouvez solliciter l'aide de l'État parce que, sous réserve de contrôle, si votre activité est interdite en raison du confinement, vous n'avez pas à justifier des 50% pour obtenir les 1500 euros sur le site d'impôts.gouv. Et vous pouvez également solliciter auprès de votre banque un prêt de trésorerie qui sera évidemment garanti par l'État. Donc encore une fois, la condition, c'est que votre activité soit empêchée du fait du confinement. Vous faites partie des activités, je ne sais pas ce que vous faites, qui ne peuvent pas fonctionner, qui sont interdites de fonctionner.
Voilà, donc ça vous enlève, j'allais dire, une épine du pied, en tout cas. Merci de votre appel, Jean. On salue La Rochelle, on salue d'ailleurs toutes les régions et tous les auditeurs qui nous appellent des quatre coins de France ce soir pour vous questionner, Maître Roland Pérez et Benoît Serre. Ça appelle évidemment beaucoup, on va essayer de prendre tout le monde. On se retrouve dans une petite seconde, restez bien en place, à tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Et ce soir, des réponses très concrètes à toutes vos questions. On s'intéresse aux entrepreneurs, aux artisans, aux auto-entrepreneurs très touchés par cette crise sanitaire. Vous pouvez interroger Roland Pérez, avocat d'Europe 1, et Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
Oui, alors, on est en ligne ce soir avec Nadège. Bonsoir, Nadège.
Bonsoir. Je suis, je dirige depuis 23 ans une TPE à la Bastille, et donc on est habitué, nous, aux mutations technologiques. Par contre, là, on a subi directement un coup d'arrêt, puisque notre carnet de commandes est à zéro, évidemment, comme beaucoup sur le mois de mars.
Qu'est-ce qu'il y a ?
De mars.
Allez-y.
Donc, on aimerait savoir un petit peu ce qui se passe par rapport aux pertes d'exploitation en particulier, et toutes les mesures qui sont mises en place et relayées via tout ce qui est organisation patronale comme la CPME Paris, savoir un petit peu ce qui va en être au niveau de la tenue dans le temps, parce qu'on nous annonce bien évidemment une récession, ce qu'on peut tout à fait imaginer.
Alors, Maître Roland Pérez.
Oui, alors la difficulté, c'est que vous parlez de perte d'exploitation, on a envie de penser évidemment au contrat d'assurance que l'on a tous dans les entreprises, et on se dit peut-être que ce contrat d'assurance qui prévoit effectivement les pertes d'exploitation pourrait peut-être jouer dans ce cas de crise sanitaire sans précédent, dans ce cas de Covid. Mais hélas, alors à regarder de plus près quand même votre contrat spécifiquement, mais habituellement les pertes d'exploitation sont liées à ce qu'on appelle des dommages matériels. Si vous aviez eu eu une difficulté liée à votre entreprise, hein, le bâtiment, un effondrement du bâtiment, un incendie, enfin, et qu'effectivement là, celui-ci aurait été détruit, il y aurait une perte matérielle et consécutivement une perte d'exploitation. Là, il n'y a pas de perte matérielle, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de dommage matériel, il y a juste aujourd'hui un dommage financier qui est cette perte d'exploitation. Et malheureusement, les contrats d'assurance, alors ça risque de changer dans l'avenir, hein, face à ce qu'on vient de voir là, ça risque de changer. On aimerait faire un modèle un peu calqué sur les catastrophes naturelles et qu'il y ait aussi des catastrophes sanitaires qui puissent être prises en charge. Et s'il y avait un arrêté, par exemple, comme ça a été le cas pour les catastrophes naturelles où les assurances sont obligées de jouer à plein et les pertes d'exploitation donc doivent intervenir, dans ce cas-là, on aimerait que ce soit calqué un peu sur ce système en cas de crise sanitaire. Mais ce n'est pas encore prévu par la loi. Ça n'existe pas encore. L'état de catastrophe sanitaire n'a pas été pris en compte encore par les assurances. Et donc, il va être extrêmement difficile d'obtenir des compagnies d'assurance cette prise en charge des pertes d'exploitation. Maintenant, je parle de façon générale. Il faudrait voir, Nadège, si vous aviez prévu spécifiquement une perte d'exploitation sans dommage matériel. C'est ce que prévoient parfois certains contrats. Et si c'est le cas, vous auriez donc cette chance extraordinaire de voir ce manque à gagner pris en charge par la compagnie d'assurance.
Voilà, Nadège, pour les éléments de réponse ce soir. Ah, on vous entend, dites-nous.
Oui, si jamais, voilà, rapidement. On pouvait faire un point rapide au niveau de la force majeure. Qu'en est-il aujourd'hui par rapport au coronavirus?
La force majeure, elle joue pour si vous aviez des contrats actuels que vous ne pourriez pas honorer, vous pourriez invoquer cette force majeure pour vous exonérer de toute responsabilité dans l'exécution d'un contrat. Si vous aviez dû livrer certains travaux d'imprimerie que vous ne pouvez pas le faire parce que votre entreprise est fermée, vous pourriez évidemment, il n'y aurait aucune responsabilité de ce fait. Mais la force majeure, en revanche, en ce qui concerne l'indemnisation des pertes d'exploitation, elle n'a pas de sens, ça ne joue pas.
Voilà, Nadège, pour la réponse de Maître Pérez là ce soir. On va poursuivre. Il y a énormément d'appels au 39-21. On va essayer de tous les prendre. On est avec Jack. Bonsoir à vous. Bienvenue, madame. Vous êtes originaire de Wuhan. Eh oui.
C'est ça.
Eh oui, le bassin du virus, hein, en Chine. Vous avez 4 salariés. Ils sont donc tous au chômage technique. Vous êtes dans quel domaine? Patronne de papeterie, c'est
ça? Je suis dans la papeterie. Voilà. La papeterie, c'est pour Paris 11e.
Alors, votre question à Benoît Serre.
Oui, je suis fermée depuis le confinement et heureusement qu'une crise de CPME qui m'avait bien conseillé parce que je suis d'origine étrangère, donc c'est pas facile pour moi. Et comment mon entreprise reçoit le public, je suis obligée de fermer et il n'y a pas de souci, ils ont peut tous être en chômage technique. Mon problème, ça vient plutôt après la crise. Quand ils sont en chômage technique, est-ce qu'ils cumulent le congé payé? Première question. Deux jours et demi de plus, ça nous coûte encore, c'est des charges de plus pour moi. Deuxième chose, quand à Wuhan, je sais que c'est la fin du confinement, en fait, que les affaires ne se démarraient pas. Je suis toujours avec ma famille, avec mes amis de lycée et l'université, donc je sais comment ça se passe là-bas. Si jamais après la crise, et tu dois rouvrir mon magasin, je ne peux pas prendre 4 salariés. Je pense qu'au début, je peux prendre 1, 2 ou 3. Alors, étant dans l'ordre, est-ce que j'ai le droit de choisir quel salarié
de faire
prendre
revenir
priorité,
et de privilégier Voilà.
Est-ce
on a compris. Alors,
de jeunesse, de bien jeune. Sûr. Au lieu de le responsable magasin qui a 56 ans.
Ou ceux qui sont d'accord. Alors, première question, vous répondez Benoît Serre, et puis sur le retour des salariés, Maître Roland Pérez. Allez-y.
Alors sur les congés payés, en fait, le fait que les personnes soient en chômage partiel signifie que les heures dans lesquelles elles ne travaillent pas ne donnent pas de droit à congé. Donc le droit à congé, il n'est pas plein temps alors que vos collaborateurs sont en chômage partiel. Donc de ce côté-là, vous allez pouvoir économiser une partie dans la phase des droits à congé qu'ils acquièrent pendant la période de chômage partiel.
Voilà, ça c'est pour le premier aspect. Et sur l'aspect retour des salariés, quand l'activité reprendra en France, Maître Pérez.
Retour des salariés, donc retour du droit du travail. Ouais. Retour des salariés, donc c'est le retour de l'application du droit du travail et pas du droit un peu exceptionnel qui a été mis en place par les ordonnances dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc si c'est le retour du droit du travail, on sait que l'employeur n'est pas libre dans le choix des critères qui fixent l'ordre des licenciements. Alors, sauf convention collective ou accord d'entreprise, selon la loi, les critères qui sont définis par l'employeur qui doit donc les en tenir compte, ce sont les charges de famille et notamment celles par exemple d'un parent isolé, l'ancienneté de service qui semble être le cas avec un de vos salariés, peut-être dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales qui rendent un peu leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Donc vous parliez je crois d'un salarié qui était un peu plus âgé, qui avait 54 ans et qui aurait probablement du mal à retrouver un emploi. Donc tout cela, ce sont des critères à prendre en compte. Et puis, si vous avez dans votre entreprise, ce qui ne semble pas être le cas, des délégués, des représentants syndicaux, il faut également s'en entretenir avec eux, consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, et pour fixer tout cela, l'ordre des licenciements. Mais c'est le droit du travail en général qui va s'appliquer et non pas le droit du travail exceptionnel.
Voilà donc pour les éléments de réponse à vous. Bien sûr, on essaye chaque soir, et ce soir particulièrement, comme avec Jack, de vous informer plus précisément grâce à vous, Maître Pérez, et avec vous, Benoît Serre. On a une question également que je vais vous formuler. C'est Didier d'Avignon, qui est chef d'entreprise, qui nous contacte ce soir et qui nous dit: est-ce que la Banque de France va revoir ses cotisations pour que les TPE et les PME trouvent plus facilement des fournisseurs, Benoît Serre?
Alors, ça c'est bon. Aujourd'hui, vous savez que vous pouvez décaler vos charges, etc. Mais c'est vrai que c'est toute la question du plan de relance, en fait. Aujourd'hui, le gouvernement travaille, semble-t-il, à un plan de relance. Sur le déconfinement dont on parlait juste avant, on sait qu'il va être progressif. Par conséquent, est-ce que le plan de relance va prévoir, pour des catégories d'entreprises spécifiques, notamment les petites, des conditions particulières de cotisation sociale ou des baisses temporaires de charges ou des redéploiements de charges? C'est assez possible, parce que quand on voit les différentes mesures prises par le gouvernement depuis un mois, on voit bien qu'il y a une volonté très forte de protéger les PME et les TPE en considérant qu'elles n'ont pas les moyens seuls d'assumer leurs responsabilités. Donc je ne serais pas surpris qu'au moment où on sortira du confinement, sachant que cette sortie sera progressive, le gouvernement continuera à mettre en place des systèmes d'aide spécifiques dédiés aux petites entreprises.
Voilà. On poursuit avec Marc qui a une question. Il a repris... il est là, il va nous le dire. Bonsoir Marc. Bonsoir. Vous avez repris un restaurant à la campagne pour perpétuer comme ça une tradition locale. Aujourd'hui, ça donne travaux bloqués, 150 000 euros que vous avez mis dans vos travaux et votre banquière qui commence un peu à vous lâcher. Votre question, allez-y, posez-la à Maître Pérez.
Alors en fait, le banquier ne m'a pas lâché parce que j'ai fait vraiment pression pour la réalisation de ce projet. Et au moment, par contre, où je vais signer l'emprunt après-demain, je devrais quasiment demander un report des premières échéances puisque, comme les travaux ne peuvent pas se réaliser, je ne pourrai pas démarrer mon activité comme prévu le 15 mai. Donc, j'ai aucun chiffre d'affaires, évidemment. J'ai pas ce problème-là, mais j'ai un réel problème par rapport au financement et le fait que très vite, les premières mensualités vont tomber.
Alors, Maître Pérez.
Oui, alors de toute façon, votre banque est parfaitement informée de la situation, donc si elle a mis en place ce crédit, si en tout cas l'accord vous avait été donné avant cette crise, de toute façon cet accord va vous allez le conserver, il n'y a pas de difficulté. En revanche, si la banque devrait également accepter le report des échéances, puisque c'est prévu aujourd'hui, ce sont les instructions du ministère du budget, donc il n'y a pas de difficulté non plus. Mais s'il y avait une difficulté, il y a ce qu'on appelle le médiateur du crédit aujourd'hui, c'est la médiation du crédit pour le rééchelonnement des crédits bancaires. Donc là, s'il y avait une difficulté, vous pourriez saisir le médiateur du crédit pour le rééchelonnement des crédits bancaires et qui devrait intervenir en votre faveur si votre banque, par extraordinaire, refusait ce rééchelonnement et ce report des premières échéances.
Voilà, voilà pour la réponse à Marc de la part de Maître Roland Pérez. Hélène nous appelait ce soir, on n'a pas pu prendre votre appel Hélène, mais on va refaire une session comme ça avec vous deux, Benoît Serre et Roland Pérez, pour évidemment orienter nos auditeurs, nos entrepreneurs, nos indépendants, parce que la France de demain et la France tout court, c'est grâce à eux, donc il faut les éclairer sur cette situation évidemment inédite. Merci beaucoup, on entend les applaudissements chaque soir pour les soignants, mais aussi pour les commerçants, bah oui, parce que ces applaudissements, ils sont là aussi pour vous, pour ceux qui essayent de continuer de travailler et de nous promettre un quotidien à peu près normal. Merci Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, Roland Pérez, avocat d'Europe 1, merci à vous. Écoutons ces applaudissements. Chaque soir, vous pouvez les vivre en direct sur Europe 1.